Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ce dimanche 24 mars, l'orgue Puget de Castanet-Tolosan fêtera ses 150 ans d'existence. Et dans le riche patrimoine organistique toulousain, il prendra ce jour-là définitivement sa place. Pour fêter l'événement, l'Association des Amis de l'Orgue de Castanet nous convie à une journée exceptionnelle. De nombreux chanteurs, musiciens et organistes de renom, Yves Rechsteiner, directeur artistique du Festival Toulouse-les-Orgues, Jean de Kent, directeur du conservatoire, Marc Chiron, monteront à la tribune. Bien en amont de cette folle journée, je rencontrai au début de l'hiver, à la tribune de l'Orgue de Castanet, Philippe Béra et Stéphane Barcet, de l'Association des Amis de l'Orgue de Castanet.
Ah, nous voilà à la tribune. Philippe Béra, vous êtes en train de mettre vos souliers d'orgue?
Oui, comme à chaque fois, toujours pour protéger le pédalier, ne pas avoir des souliers de fil, et puis en plus avec des chaussures confortables pour jouer talons-pointe, si on fait des talons-pointe.
Et c'est un rituel, ça?
Oui, depuis très longtemps, oui. Et tout le monde ne le fait pas, mais généralement, tous les organistes ont des chaussures. Ou alors vous faites comme le concert des Witches, où Freddy avait donc joué en chaussettes. Donc il y en a certains qui préfèrent maintenant jouer... pieds nus ou en chaussettes, oui. Ça dépend de la température aussi. Oui. Là, aujourd'hui, il fait froid, donc il vaut mieux avoir des chaussettes épaisses.
Oui, donc il y a tout un rituel. Il faut vous mettre, quand vous arrivez ici à la tribune, vous mettez en condition, alors psychologiquement, je suppose, dans votre tête, mais également de vous mettre dans une tenue dans laquelle vous êtes plus à l'aise, vous avez enlevé votre manteau.
Oui, oui. Ah, par contre, il fait vraiment très froid, là, il faut garder le manteau, mettre des fois les mitaines, ça arrive. Hein, donc, mais sinon, non, j'aime bien être un peu à l'aise.
Donc. Et donc, alors si on va un petit peu plus loin, est-ce que ça veut dire quand vous arrivez ici, que vous arrivez à la tribune, tout le monde extérieur, tout ce qui a fait votre vie, dans les heures, dans les minutes qui ont précédé, vous le laissez un petit peu à la porte?
Complètement. Ah là, tout le reste est oublié. Oui, c'est un autre monde. D'abord, on rentre dans un édifice qui est à chaque fois particulier. Souvent, c'est une église où il y a un orgue. Et donc, du coup, on a une autre ambiance et puis on oublie tout ce qui est le quotidien, la rue, tous les soucis, en fait. Mmh. Ça, c'est vraiment une partie extrêmement importante.
Alors, Philippe Béra, on vient de monter à la tribune de l'orgue de Castanet. Vous êtes musicien, vous êtes organiste, vous êtes le président des Amis des Orgues de Castanet. Voilà, et après?
Alors, je suis président de l'Association des Amis des Orgues de Castanet, Tolosan. Et donc, je suis amateur de musique depuis très longtemps et je joue de l'orgue après avoir fait un peu de piano, bien sûr. Et j'ai découvert l'orgue... En ayant la possibilité de monter une tribune dès que j'avais une dizaine d'années. Voilà. Donc, ce qui m'a permis de découvrir cette sonorité très particulière, d'avoir en plus à l'époque quelqu'un qui jouait de l'orgue et qui est maintenant un musicien de jazz très connu dans le monde entier, qui est François Couturier, et qui improvisait donc aussi du jazz à l'orgue sur l'orgue qui était juste à côté de la maison chez nous. Et il jouait aussi très bien tout ce qui est la musique de Bach. Et il a fait le conservatoire d'Orléans. Voilà, j'ai appris à jouer de l'orgue à Orléans.
Vous vous souvenez de la première fois où vous avez posé vos doigts sur un clavier d'orgue?
Oui, je me souviens très bien. Donc c'est la sonorité d'abord. Ces sons qui sont où l'on peut jouer justement. Il suffit de tirer un registre ou un autre. Et on a d'autres sons qui apparaissent. La possibilité d'avoir aussi un son continu. Et ça, pour moi, ça a été par rapport au piano, où le son s'atténue, même si on met la pédale. Et donc, d'avoir... et puis, des mélanges. Faire des mélanges entre les différentes sonorités. Quand on met une quinte ou ensemble avec une tierce, par exemple, sans jeu de fond, sans fond, sans fondamental, ça donne encore d'autres sonorités qu'on ne peut pas faire avec un piano, bien sûr, ou avec d'autres instruments. Et ça, c'est quelque chose qui donne un autre relief à la musique et qui fait découvrir d'autres sons.
Ici, nous sommes à la tribune, donc on est dans une position élevée, d'élévation, oui, on va dire. Oui. On est dans une église, cette notre tenue, cette position élevée, il y a comme un petit goût d'éternité.
Il y a le côté éternité, oui, ça c'est sûr. Il y a le côté, le fait d'être en hauteur, c'est quelque chose d'important, même s'il y a des fois des orgues donc en bas, les orgues dans le chœur ou donc au niveau du sol. Mais c'est vrai que là, on a l'impression. Puis en plus, on est souvent caché, donc il y a ce côté mystérieux aussi de monter à la tribune, de se demander d'où le son vient, comment il est produit. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Je veux dire, quand on emmène les gens ici à la tribune, on leur fait découvrir l'instrument. Pour beaucoup, c'est vraiment un monde qu'ils découvrent, parce qu'on voit généralement que les tuyaux de façade, donc les tuyaux de montre, de l'échelle. Et donc, là, on découvre vraiment l'arrière et qu'est-ce qui fait que le son est produit, comment on fait entre le clavier, le pédalier et puis les tuyaux. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ?
Oui, parce que pour ceux qui sont en bas dans la nef, la musique tombe pratiquement du ciel.
Exactement, voilà. Je me souviens, la première fois que j'ai vu un orgue en nid d'hirondelle, c'était le grand orgue de Chartres. C'était tout à fait au début du concours des Grands Prix de Chartres. Et c'est vrai que d'avoir en plus un orgue comme ça accroché sur le côté, c'est quelque chose qui donne encore une autre vision de l'instrument. Parce que là, cette fois-ci, il est plus proche des gens, même s'il est plus haut, mais il est plus proche. Et on a l'impression d'un animal, même d'un oiseau qui est là, qui est accroché et qui chante.
Donc orgue, à la fois fabuleuse machine, parce qu'il y a de la mécanique, mais en même temps, instrument très vivant. Vous me parlez d'oiseaux,
oui.
Vous me parlez d'être vivant. Donc il y a ces deux aspects, à la fois mécanique et puis il y a une âme, vraiment.
Il y a une âme, et puis il ne faut pas l'oublier que c'est un instrument à vent. Donc si un instrument à vent, c'est-à-dire qu'il y a de l'air, donc il va falloir amener cet air jusqu'au tuyau. Et c'est le côté positif et le côté négatif de l'instrument. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sur la plupart des instruments, on n'arrive pas à faire varier la pression. Donc du coup, le son est figé. Ça fait partie justement aussi des projets, de savoir est-ce que l'on peut aussi faire varier cette pression, comment on peut la faire varier, de façon à avoir une autre façon de créer un son. Et donc le rendre encore plus vivant que ce qu'il peut être.
Alors on va parler de cet orgue, l'orgue de l'église de Castanet, un orgue Puget, un orgue d'origine je crois.
Alors c'est un orgue d'origine Puget, donc qui a été construit donc dans les années 1868, oui, avec deux claviers et un pédalier. Le pédalier à l'origine était un pédalier qu'on appelle en tirasse, donc il n'y avait pas de tuyaux propres et de jeu propre au pédalier. Donc il y a un clavier de récit et un clavier de grand orgue. À l'origine, donc, dans le premier projet, il n'y avait qu'un seul clavier, qui est le clavier de grand orgue. Et puis il y a eu un petit peu d'argent supplémentaire, ce qui a permis de construire le clavier supplémentaire de récit.
Un orgue dans 1868, mais qui a subi au cours du temps quelques avaries. Donc il y a eu des restaurations, relevages. Vous allez nous préciser ces deux termes.
Oui.
Mais d'abord les avaries, les restaurations.
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est notamment la question de la position de la console. Après avoir visité l'instrument, donc plusieurs facteurs se sont posés la question. Nous nous sommes posés la même question. Donc savoir est-ce que la console est exactement comme elle est aujourd'hui. De toute façon, ça c'est sûr par rapport aux travaux de 1995, où elle a été modifiée. Mais par avant, il y a des grosses questions et il semblerait que la console n'était pas à cette place-là.
Où est-ce qu'elle pouvait être ?
Elle pouvait être en fenêtre, c'est-à-dire inversée, et donc avec les claviers en direction de l'instrument.
D'accord, et l'organiste donc dos.
Comme dans beaucoup d'orgues, le 19e siècle, ouais, est une période charnière où la console est retournée, dans beaucoup d'instruments, mais là, la question se pose. Voilà. Est-ce qu'il y a conduit après des modifications très fortes dans la mesure où l'instrument n'était pas conçu pour cela, et donc la position des tirants pour les registres fait que c'était devenu très difficile de jouer, et la position aussi de tout ce qui était vergette qui ont fait que l'orgue était devenu quasiment injouable dans les années 1980.
Mais aujourd'hui, vous avez un nouveau projet. Vous m'avez parlé de relevage.
Alors le relevage, c'est en fait un grand nettoyage de l'instrument, parce que on entretient l'orgue donc régulièrement. Pour Castanet, nous avons la chance de pouvoir avoir un entretien donc 4 entretiens par an, ce qui est beaucoup, ce qui permet essentiellement de faire l'accord de l'instrument, notamment à des périodes clés de l'année liturgique ou l'année par rapport au concert aussi. Donc ça, c'est l'entretien, je dirais, usuel. Et puis après, ben, comme tout instrument, ça vieillit, il y a la poussière, il y a le bois aussi qui peut s'abîmer, il y a la poserie, puisqu'il y a de la peau de mouton, il y a la partie électronique, parce que sur cet orgue-là, il y a des parties électriques et électroniques. Donc tout ça vieillit, les contacts vieillissent pour la partie électronique, et donc ça nécessite donc un travail beaucoup plus important, et le relevage, c'est donc de nettoyer l'instrument complètement, sans forcément donc modifier la structure de l'instrument, et par contre en revoyant aussi tout l'accord, mais l'accord complet de tout l'instrument, pas uniquement des jeux d'ange comme on le fait régulièrement.
Ce qui veut dire que vous allez démonter les tuyaux par exemple ? Est-ce que vous déposez le relevage ? Est-ce qu'il y a...
Si.
Vous déposez oui. également les éléments ?
Voilà, dans ce cas-là, normalement un relevage complet, c'est retirer tous les tuyaux, regarder l'état des sommiers, changer les poseries donc à l'intérieur pour les poseries permettre l'étanchéité au niveau donc des soupapes, donc changer tout cela et, s'il y a besoin, et puis après s'il y a plus, eh ben, il faut le revoir. Et puis là, il y a aussi le problème tout ce qui est électronique, donc est-ce qu'il y a des contacts à refaire, des soudures, et voilà. Ça, c'est la partie si on fait un relevage. Le projet, c'est plus qu'un relevage.
Le projet, c'est quoi ?
Le projet, c'est en fait reconstruire un nouvel orgue. C'est repartir de ce qui est intéressant d'un point de vue matériel, notamment toute la partie tuyauterie, qui est la tuyauterie historique, qui a été utilisée par Puget, mais qui est plus ancienne que Puget. Donc d'après nos recherches, c'est plutôt fin 18e, début 19e siècle.
Du réemploi, c'est ça ?
Comme beaucoup de facteurs ouais. d'orgue. Même aujourd'hui, il y a des facteurs d'orgue qui réutilisent. Quand vous avez un instrument, par exemple, qui est refait, donc le facteur d'orgue, on dit, voilà, on fait un orgue neuf.
Ouais.
Soit le facteur réutilise du matériel qui est déjà là, soit sinon, il dit, je vais faire du neuf. Voilà. Et donc tout ce qu'il a, tout ce qui est dans l'instrument, il va le récupérer. Donc les tuyaux. Donc il va le stocker chez lui. Et ensuite, il y a une autre offre qui est faite. Et en fonction des prix, etc., du coup, il peut dire, moi, je vais réutiliser le matériel que j'ai à la maison, que j'ai dans mon atelier. Et donc, reconstruire un orgue avec du matériel qui est beaucoup plus ancien. Donc, c'est ce qu'a certainement fait Puget. Pour le grand orgue, ça, c'est évident, puisque pour le récit, il y a des tuyaux qui sont de Puget. Mais pour le grand orgue, il est entièrement... Il y a pratiquement rien de Puget. Voilà, c'est de la réutilisation d'autres choses. Et on le voit parce que les soudures sont des soudures à la main. Il y a des poinçonnements. Alors, on poinçonne, donc tous les tuyaux sont notés. Et normalement, à partir du milieu du 19e siècle, c'est fait avec un poinçon, alors que là, c'est encore marqué à la main. Donc, ce qui est la preuve que les tuyaux sont beaucoup plus anciens.
Ce qui fait qu'un instrument s'inscrit dans le temps, s'inscrit dans une chronologie, s'inscrit dans une histoire.
Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire que notre projet, puisque vous parliez de projet tout à l'heure, le projet, c'est donc de réutiliser ce qui peut être utilisable, donc je vous dis la tuyauterie, en gardant donc l'âme de cela, parce qu'il y a des tuyaux, il y a des jeux qui sont extraordinaires dans cet orgue. Et c'est pas la peine à ce moment-là de vouloir recopier. Donc on a une base. Après, il y a toute la partie, qu'est-ce que l'on peut compléter en gardant cette âme de façon à donner une autre vie à l'instrument. Et puis, comme je le dis toujours, de créer un patrimoine pour l'avenir. C'est pas uniquement de dire le patrimoine est derrière nous, mais le patrimoine, on le crée tous les jours. Et pour nous, c'est l'occasion de créer du patrimoine.
Le patrimoine s'enrichit.
Exactement. Voilà.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Parce que je suppose que vous avez une idée.
Qu'est-ce que nous souhaitons ? Nous souhaitons, donc, comme j'ai dit, donc garder ce qui est intéressant comme patrimoine ici, et puis rajouter donc, d'autres jeux qui permettraient d'étendre les sonorités. Donc, ce qui commençait à se perdre à la fin, donc, dans la période romantique, symphonique de l'instrument, de l'orgue. Et donc aujourd'hui, on pourrait rajouter, je vous parlais des tierces et des quintes tout à l'heure, donc en remettre sur cet instrument. Et puis surtout, réfléchir à un orgue du 21e siècle, donc, où l'on pourrait donc, faire varier justement ce vent, donc la pression ou différentes choses. Donc d'en faire un orgue avec une révolution, je dirais ici. Il y en a très peu en France, il existe dans d'autres pays. Mais voilà, donc on serait un peu pionnier, ce qui veut dire que Castanet sera à ce moment-là un lieu de concentration pour visiter quelque chose de neuf, de créatif, d'innovant. Voilà, ça c'est vraiment la partie très intéressante.
Stéphane, vous voulez rajouter quelque chose?
Je crois que le mot innovant est quelque chose d'assez important, dans le sens où ce n'est pas la peine de reconstruire quelque chose qui existe déjà sur Toulouse, sur la région toulousaine et ailleurs. C'est essayer de créer quelque chose qui a ses propres particularités. Et effectivement, à partir de quelque chose qui est historique, de rajouter quelque chose pour le futur qui soit constructeur aussi du futur.
Vous voyez, est-ce que vous l'avez-vous programmé pour une date dans le long, moyen, court terme?
Ça serait plutôt entre le court et le moyen terme, dans la mesure où il faut trouver tout le budget pour donc le financement. Donc actuellement, on part plutôt sur une enveloppe de 400 000 euros, donc il faut trouver 400 000 euros.
Ouais, mais moyen terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2, 3 ans, 4?
Moi, je pense que si d'ici 4-5 ans, on avait quelque chose, ça serait très bien. Mmh. Voilà. Mais ça serait... On est optimiste.
Oui.
Ça dépend après de la volonté aussi des politiques. Je veux dire aussi, la volonté politique, c'est de nous aider et de faire en sorte que... Comme c'est quand même un instrument qui appartient à la commune.
Oui.
Donc, de dire, voilà, on investit, on fait quelque chose. Surtout par rapport au projet que nous évoquions tous les deux avec Stéphane, de dire, on fait un orgue innovant.
Oui.
Donc là, il y a quand même aussi une attractivité qui n'est pas uniquement de dire, on refait un instrument et... Voilà, l'identique. Et voilà. Donc là, il y a aussi ce côté-là qui fait que ça valorise aussi la commune, ça valorise l'ensemble de tout le monde ici.
Mm-hmm.
Et puis il y a une chose que je voudrais dire, parce que c'est important, je pense que Stéphane va comprendre aussi pourquoi, c'est que dans les concerts, tous les gens nous disent, mais finalement l'instrument, il est très bien. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait le revoir? En fait, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Dans la plupart des cas, pour nous, pour l'association, c'est d'avoir des concerts de qualité. Donc d'avoir des organistes qui sont aussi de renom, mais qui ont aussi ce sens justement de la musique et du phrasé et du choix des pièces musicales. Et donc ça veut dire que quand ils viennent ici, ils passent du temps, ils écoutent l'instrument, et ensuite ils vont choisir, en fonction des registres, ce qui va convenir. Et donc, ils ne vont jamais mettre ce qui ne va pas. Donc, du coup, la personne en bas ne se rendra pas compte de ce qui se passe. Là, on peut vous montrer des choses, vous verrez que
ça passe pas du tout.
C'est horrible, ça ne passe pas. Donc, nous savons, et donc nous faisons aussi attention à ne pas effrayer trop toutes les personnes. Alors, c'est vrai que les gens
nous disent...
C'est à double tranchant, voilà. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens nous posent la question, mais il n'y a pas de souci, ben, je dis non, si, il y a des soucis, mais on ne vous le montre pas. C'est pas notre...
Donc le prochain concert, c'est les dissonances?
Ça pourrait être une idée.
Thank you.
peut aller dans les entrailles de l'orgue. Est-ce qu'on peut parler des entrailles je parlais tout à l'heure de la machine. C'est... Voilà. Alors, on passe par là.
Voilà, je vais passer.
Et là, on entend, c'est la soufflerie.
Oui. Vous ne marchez pas sur le porte-vent.
Oui.
Là, vous avez la soufflerie. Le soufflet, on le voit mieux en dessous. Et dessus, donc, il y a des poids donc, qui permettent d'assurer, de modifier la pression au niveau du soufflet. Donc là, vous êtes derrière, donc vous voyez donc, l'envers du décor, je dirais. Avec ici donc, tout ce qui correspond au grand orgue. Au-dessus, ce que vous voyez, c'est le buffet donc, du récit, donc, qui est dans une boîte, donc complètement close, de façon à pouvoir faire varier en ouvrant les volets donc, l'intensité du son, avec, voilà, donc faire crescendo et décrescendo avec l'ouverture des volets. Et derrière vous, vous avez donc, la partie donc, de pédale. Les tuyaux de pédale. Donc, tout ceci a été rajouté donc, en 1995. Enfin, tout ça, c'est neuf.
Ce qui fait que ça fait combien de tuyaux ça
au total, il y en a 800-900.
Certains portent un petit nœud.
Ah, parce qu'ils sont attachés. Vous voyez, là, ils sont attachés à la partie en bois qui est là, mm-hmm. de façon comme ici. Donc, pour éviter que... Comme la partie du pavillon est... Là, c'est un jeu de trompette. Hein. Donc, c'est un tuyau de trompette. Donc, pour éviter qu'il ait tendance à fluer et à se déplacer sous l'action de son propre poids. Donc, ils sont retenus à... Voilà. Alors, sur les grands instruments, c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'ici, on est en bordure avec des choses qui ont été modifiées, notamment derrière. Ce qui fait qu'il y a... Pour être sûr qu'ils soient bien maintenus, donc, ils ont été attachés. Donc, là... Alors, après, vous avez donc... Si tu veux, on arrête la soufflerie, comme ça on va pouvoir ouvrir. Vous verrez l'intérieur. Parce que là, je ne peux pas ouvrir, c'est sous pression. Et là, vous trouvez les parties électroniques. Ça, ça a été rajouté en 1995.
Et donc là, vous ouvrez le...
On ouvre donc au niveau du sommier. Donc là, on tire cette planche. Donc là, vous voyez la poterie, donc ça, c'est en peau de mouton. Donc, l'orgue, c'est un instrument, c'est un des plus vieux instruments. Donc, il est 3e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc, c'est quelque chose dont la conception n'a pas évolué d'un point de vue du principe de fonctionnement. Après, bien sûr, il s'enrichit, il a évolué sur les plans sonores, mais sinon, la conception est la même.
Oui, parce que les premiers orgues, puis il y avait la soufflerie à la main aussi.
Oui, voilà. Mais là aussi, avant, il y avait, jusqu'à la restauration de 1995, il y avait les soufflets, qui pouvaient s'actionner à la main. Donc ça a disparu.
Vous n'avez pas connu Stéphane ?
Ah non, non, j'ai pas connu l'orgue avant 1995. Non, enfin, le principe, effectivement, enfin, c'est que c'est complexe. Enfin, le principe est le même depuis la création de l'instrument. C'est simplement juste complexifié en masse, en termes de timbre, en nombre de claviers à gérer.
Les touches aussi, parce qu'au départ, c'était pas comme ça. C'était juste, on appuyait, on ouvrait la soupape et c'est tout. Hein, voilà. En fait, c'est une flûte. Les premiers, c'est une flûte améliorée. Hein. Voilà. Et on pouvait donc faire plusieurs notes à la fois. Mais sinon, c'est une flûte. Le tuyau est lui-même. Pour les tuyaux, tuyaux à bouche, oui, c'est des tuyaux comme celui-ci. C'est un tuyau qui correspond comme une flûte. Il y a un bec.
Oui, ne serait-ce que le tuyau à bouche, déjà, la terminologie.
Oui, alors qu'ici, c'est différent. Là, c'est un tuyau orange.
Ce qui est complexe, c'est surtout par l'échelle. Ça veut dire que là, il n'y a pas un tuyau, c'est pas une flûte. C'est une flûte par note et par timbre. Et donc, effectivement, quand on veut travailler, il va falloir travailler sur l'ensemble des tuyaux d'un registre, d'une sonorité, multiplié par tous les registres de l'instrument. Donc, le travail d'harmonisation, c'est un travail, ouais, effectivement, qui sera très long, qui est très long sur...
Et là, on voit qu'il y a de la maladie qui commence à venir. Ça, c'est la partie en plomb. Hein.
C'est-à-dire qu'il est un petit peu mangé.
Il s'oxyde. Oui. Non, il s'oxyde. C'est la corrosion. Voilà. Alors ici, il faut fermer parce que... Il faut l'anti-pigeon, donc sinon ça fait clac, clac, clac.
Là aussi, vous montez au clocher. Donc il faut repasser par l'extérieur ou on ne peut pas passer directement dans l'église.
Ça Est-ce que je peux ouvrir ici? Ça, c'est possible. La grille est fermée.
Tu veux mettre la... jouer avec le plein jeu, le prestant?
Ce dimanche 24 mars, l'Association des Amis de l'Orgue de Castanet-Tolosan vous invite donc à une journée exceptionnelle. De nombreux organistes de renom, nous l'avons dit, Yves Reichsteiner, Jean de Quint, Marc Chiron, des chanteurs, une violoniste de l'Orchestre National du Capitole, monteront à la tribune. N'hésitez pas à vous renseigner et à réserver auprès des Amis de l'Orgue de Castanet au 07 68 33 75 55.